Kelly Gagnon, je pense que vous le connaissez, je vous ai vu échanger.
On se connaît depuis longtemps.
Avec lui. Alors, Michel Kelly Gagnon, c'est la première fois qu'on vous accueille à notre micro. Vous êtes PDG de l'Institut économique de Montréal. Vous avez été président du conseil du patronat. On vous connaît surtout pour ça, de 2006 à 2009. Je ne sais pas si vous connaissez, vous avez déjà des échanges, soit avec José Legault, soit avec Nathalie Petrovski. Ou si
il m'a taquiné un petit peu, là, avant de rentrer. C'est taquiné amicalement.
Alors, Michel Kelly Gagnon, vous avez écrit, c'est avant-hier, je pense, que cette lettre est parue dans le journal La Presse. Ça a un lien indirect avec... C'était hier, dans le journal La Presse. Ça a un lien indirect avec le remaniement ministériel et les nouvelles fonctions de Christian Paradis. Ça a été... au Québec, c'est très impopulaire, les sables bitumineux. Mmh. Et c'est très impopulaire de les défendre, en fait. Et vous avez pris dans cette lettre, la défense, et vous avez remis en question les perceptions qu'on a ici au Québec, anti-sable bitumineux, qui se sont encore une fois beaucoup exprimées au moment de la nouvelle nomination du ministre Christian Paradis. Alors, un dialogue crucial, le Québec aurait tort de maintenir une attitude négative envers l'Alberta, particulièrement par rapport à ce dossier-là. Donc, quelle est votre position?
Oui, mais d'abord, j'ai un long historique d'être un apôtre des causes perdues, alors ça, il n'y a pas de problème avec ça. Mais... Non, écoutez, de façon générale, ce que j'ai regardé, c'est la contribution générale de l'Alberta à la Fédération canadienne et notamment aux finances publiques du Canada et du Québec. Et j'ai rappelé un certain nombre de faits qui sont bons à dire parce que les Albertains, et soit leurs politiciens dans les journaux, tout ça, il y a un sentiment qu'ils sont mésappréciés, mécompris. Et je trouvais que c'était important qu'un Québécois francophone explique publiquement la contribution de ces gens-là au niveau des finances publiques.
Les Albertains se sentent mal aimés, oui, mal compris, des Québécois en particulier, ou en général?
Il y a eu plusieurs articles dans le Calgary Herald dans les dernières semaines, par exemple, où ils disaient, écoutez, essentiellement, il y a comme un genre de manque de gratitude. J'aborde le thème général. Sur le cas précis des sables bitumineux. En fait, la question, c'est de dire, la plupart des analystes pensent que, au moins pour les 10 prochaines années, même en augmentant beaucoup les énergies renouvelables, solaires, éoliennes et autres, on va continuer à avoir besoin de pétrole de façon massive. Bon, et même, encore une fois, des gens qui sont partisans des sources alternatives reconnaissent que ça va prendre un certain temps avant de se débarrasser de l'utilisation de fossil fuel, le pétrole, le gaz et autres. Dans ce contexte-là, on dit, pétrole pour pétrole, la question, c'est pas de comparer le pétrole albertain, voire même les sables bitumineux, à rien du tout, c'est de les comparer à du pétrole saoudien ou iranien. Ou d'autres sources. Et quand on prend une approche comme ça, quand on compare, je dirais, entre guillemets, des pommes et des pommes, on peut voir le cycle de vie, autrement dit de dire, ce pétrole-là, qu'est-ce qu'il y a eu comme conséquence environnementale pour l'extraire? Qu'est-ce qu'il y a eu comme conséquence environnementale pour l'amener, le transporter? Et quand on prend une approche globale comme ça, moi, je dis que le pétrole albertain, il faut pas le démoniser plus que d'autres sources. Et en plus, d'un point de vue bien pratico-pratique, moi, j'aime mieux que mes dollars aillent vers l'Alberta que vers l'Iran.
Wow, il y a quand même...
Il y a quand même
des faits qu'il faut mettre sur la table. Depuis que les conservateurs sont arrivés, il y a eu approbation de quatre projets majeurs de pipeline. On commence avec Keystone, on continue avec Alberta Clipper, Southern Lights, Keystone 2. Juste Keystone, 900 000 barils par jour direct vers les États-Unis. Avec la règle de proportionnalité de l'accord du libre-échange nord-américain, on ne peut pas fermer ce robinet-là. Celui-là, selon une étude indépendante externe, 18 000 emplois qui ont été exportés en même temps. Par ailleurs, on est en train de laisser un dégât environnemental pour les générations futures parce qu'on n'internalise pas les coûts. Puisqu'on n'internalise pas les coûts environnementaux puis on les laisse aux générations futures, ça a eu un effet pour faire flamber la valeur du dollar canadien, rendant encore plus difficile la vie de nos entreprises exportatrices parce que c'était plus difficile d'exporter avec le dollar élevé.
Qu'est-ce que vous proposez, Thomas, concrètement?
Qu'on internalise les coûts environnementaux. C'est très simple. C'est environ 4 $ le baril. Ça réduit l'afflux de dollars américains. On laisse pas la facture aux générations futures. En ce moment, on est en train de faire 60 milliards de dollars de déficit juste cette année. Si au moins on avait une vision pour les énergies propres et renouvelables, on laisserait une infrastructure pour les générations futures. À la place, on est en train de laisser la plus importante pollution de la planète Terre. Les barrages qui retiennent les dégâts des sables bitumineux sont les plus longs barrages au monde. Les gaz à effet de serre il y a moyen dans un marché fermé, mais vous vous battez contre ça. Michel, je disais tout à l'heure qu'on se connaît depuis longtemps. La dernière fois qu'on a fait quelque chose de formel ensemble, c'est j'étais le ministre de l'Environnement du Québec. L'Institut économique de Montréal avait organisé un débat, puis votre thèse, c'était que le réchauffement planétaire, c'était un canular. Vous avez amené un gars de l'Université d'Ottawa, il devait être un vrai parce qu'il portait un casque de construction pour montrer à quel point il était sérieux. Puis là, sa thèse, c'était du bullshit.
Vous avez donné du airtime, ça a été un débat, et vous êtes contre qu'on puisse organiser des débats, mais de toute façon, si on revient au passé, on va en parler.
Vous êtes exactement comme... Le Québec est la seule place au monde qui extrait et exporte l'amiante dans le monde occidental. On a un institut de chrysotile qui reçoit de l'argent du gouvernement conservateur. On a un scientifique bidon qui dit que c'est sécuritaire, comme si le Québec avait un amiante sécuritaire. C'est exactement comme aux années 60 qu'on a essayé de se battre contre la réalité que les cigarettes étaient dangereuses. Et c'est la thèse que vous défendez, Michel. Vous êtes en train de nuire
Thomas,
au
c'est
Canada
drôle parce qu'en 2001, vous avez beaucoup parlé, mais là, il faut quand même que je dise quelque chose. En 2001-2002, de tous les politiciens québécois, vous étiez celui qui venait le plus souvent aux événements de l'Institut.
Ben, vous avez
et vous avez dit
raison.
À plusieurs reprises que vous trouviez... Vous avez dit à plusieurs reprises qu'on faisait du bon travail, que vous étiez d'accord avec nous. Alors,
sur le plan
de vous voir en nombre,
vous
faisiez du bon travail sur ce que vous disiez.
Pas du tout. Sur le plan environnemental, mon propos n'a jamais changé. Vous le savez aussi bien que moi,
Nathalie
Michel.
Petrovski.
Je veux juste, en fait, réagir à ce que vous disiez, M. Kelly-Gagnon, au sujet du fait que les Albertains se sentaient mal aimés des Québécois. Et aujourd'hui, dans le blog de Jean-François Lisée, il cite, il y a une étude qui a été commandée par Jack Jebdouab, qui est le directeur de l'Association d'études canadiennes. Et il a commandé une étude pour savoir l'estime que tout le monde se porte, les anglophones du Canada versus les francophones.
C'était paru sur Canoë, ça.
Ah oui? OK. Oui. Ben, je veux juste... Alors, ceux qui nous adorent, ça commence... Bref, Alberta...
Oui, bien sûr.
Ils sont les avant-derniers. Ils nous adorent à 17 %. Ceux qui nous détestent, Alberta, sont les deuxièmes à nous détester le plus, à 11,6 %. Et dans les moyennes, ce qu'on découvre, ça c'est incroyable, les Canadiens anglais détestent d'abord les Amérindiens, ensuite les francophones, alors que les francophones détestent d'abord les Juifs, ensuite les Amérindiens. Et les derniers, ceux qui détestent le moins les francophones, c'est les Canadiens anglais. C'est quand même assez incroyable. Alors c'est juste pour dire que votre thèse un peu sur le fait qu'ils se sentent mal aimés, on les haït pas tant que ça.
Est-ce qu'on peut aussi ne pas sombrer dans le monde des émotions, là, se sentir aimé, pas aimé? Ce que je trouve intéressant, c'est le débat entre... Parce que là, il faut rester sur les faits. Moi, je n'irai pas dans ce débat-là parce que je ne suis pas experte de cette question-là. Mais je sais qu'à ma droite...
Thomas Mulcair,
paradoxalement,
ouais.
J'ai quand même à ma droite un ancien ministre de l'Environnement et puis bon, qui d'ailleurs a eu des accords assez musclés, je pense, avec son premier ministre de l'époque sur des questions environnementales. Donc, on ne peut pas douter un peu de la sincérité puis de ses connaissances. Donc, mais je pense qu'au moins, c'est intéressant parce que là, on a vraiment les deux points de vue bien campés. Là.
Oui, des positions irréconciliables, non?
Non, mais écoutez, irréconciliables, encore une fois, moi, tout ce que je dis, on peut bien... Là, M. Mulcair nous arrive avec une proposition concrète d'augmenter de 4 $ en moyenne. Bon, le coût, on peut en discuter. Moi, ce que je dis de façon générale, c'est que l'apport gazier et pétrolier de l'Alberta, il n'y aura pas de fée magique pour le faire disparaître. Ça va continuer. Et un, ça va continuer. Puis deux, c'est une bonne chose. Moi, c'est ce que je dis.
Mais
puis
Michel,
je change pas
on a déstabilisé l'économie équilibrée qu'on a bâtie au Canada depuis la Deuxième Guerre mondiale, avant que la crise actuelle ne frappe à l'automne 2008. Québec et Ontario avaient déjà perdu 400 000 emplois dans le secteur manufacturier et forestier à cause des mauvais choix des conservateurs. Ils ont pillé 57 milliards dans la caisse d'assurance-emploi qui avait été contribuée par tous les employeurs et tous les employés, même si l'entreprise perdait de l'argent. On a créé l'espace fiscal. Pourquoi? Pour 60 milliards de dollars de réduction d'impôts, où était l'Institut économique de Montréal. Je sais que le Conseil du patronat s'en est plaint, parce que ça n'a pas bénéficié les compagnies qui perdaient de l'argent. Ils n'avaient pas payé d'impôts. Alors, c'est allé à qui? aux grandes pétrolières et aux banques. Ça a fait quoi? Ça a réchauffé le secteur pétrolier dans l'Ouest, ça a poussé le UR à des sommets jamais vus depuis 35 ans, et ça a encore détruit des jobs dans le secteur manufacturier et forestier. C'est un grand pays. Une intervention de l'État est nécessaire pour équilibrer l'économie, ce que vous niez dans votre thèse fondamentale.
Je vous redonne la parole, Michel Kelly-Gagnon, mais José Legault voulait intervenir.
Moi, c'est juste deux petits points. Le premier, c'est que, évidemment, nous avons un premier ministre à Ottawa qui défend beaucoup les intérêts albertains. Alors ça joue beaucoup, je pense, dans ce qui se passe en ce moment, parce qu'on assiste depuis 2006 à une espèce de glissement lent du pouvoir politique, économique, un petit peu plus vers l'Ouest. Et ça, bitumineux, en font partie. En fait, même Michael Ignatieff, le chef du Parti libéral, a dit que de défendre les sables bitumineux, ça était une question d'unité nationale. Une chose qui me chicote, par contre, c'est comment se fait... Puis, j'ai pas la réponse. Comment se fait-il que depuis quelques semaines, dans certains médias francophones au Québec, tout à coup, il y a des Québécois qui se portent à la défense des sables bitumineux albertains? Moi,
On en a un ici à table.
Je lis les journaux albertains assez régulièrement depuis bien des années. Je les ai jamais vus se porter à la défense d'hydroélectricité québécoise, des choses comme ça. Mais alors, moi, je sais qu'est-ce qui se passe, donc, pour que depuis quelques semaines, tout à coup, ça devienne un enjeu québécois.
Bien, je l'explique dans mon article. Je veux dire, il y a eu un financement important au bénéfice du Québec de ces sources-là. C'est écrit dans mon article, je l'ai expliqué. Puis par ailleurs, ben, quand les gens
on ne l'a pas tous lu, c'est pour ça que je vous pose la question.
Quand on a des opinions et des idées, ce n'est pas toujours parce qu'on est nécessairement à la solde X, Y, Z.
C'est pas ça que je veux
dire. Parce qu'on développe des rémunérations, ce que vous insinuez assez clairement.
Non, pas du tout, je vous pose la question.
On est capable de lire. Mais écoutez, alors, c'est tout simplement que moi, j'ai l'intime conviction, encore une fois, que le secteur énergétique albertain, dans son ensemble, est un plus pour le Canada. Je suis convaincu de ça.
Et au niveau environnemental, ça ne vous interpelle pas, les questionnements au niveau environnemental?
Oui, et ce que je dis là-dedans, c'est qu'effectivement, s'il y a des choses à améliorer, il y a des choses qui ont été améliorées, il faut continuer à le faire et à investir dans ce sens-là. Donc, je ne suis pas du tout contre ça, mais je dis que de penser que, d'abord, qu'on va fermer l'Alberta avec un cadenas. Je veux dire, de toute façon, ça n'arrivera pas.
Vous érigez votre homme de paille vous-même pour mieux le faire tomber vous-même. Personne ne parle de fermer l'Alberta. On parle de pratiquer, mettre en application les règles de base du développement durable, c'est tout. De ne pas laisser, en plus de la dette financière sur les épaules des générations futures, on est en train de leur laisser une dette écologique et environnementale. Et c'est pas juste en termes d'équité intergénérationnelle, qui était effectivement un de vos thèmes de prédilection il y a une dizaine d'années quand on s'est rencontrés pour la première fois. Mais j'ai une question pour toi. Les conservateurs, depuis qu'ils sont là, dépensent allègrement, plus rapidement, ils augmentent les dépenses du gouvernement plus rapidement que l'inflation. Le prochain budget, il y a fort à parier que la première chose qu'ils vont essayer de chopper sont les services directs au public, plutôt que d'essayer d'avoir une manière de s'y prendre qui épargnerait les gens qui, justement, reçoivent ces services-là, parce que, rappelons-le, c'est une excellente manière d'enlever les inégalités dans notre société, les services au public. Allez-vous vous battre contre vos amis conservateurs lorsqu'ils vont essayer de, comme solution aux problèmes qu'ils auront créés, est-ce quand ils vont essayer de chopper les services, ou est-ce que vous allez les encourager de le faire?
Nous, on va regarder le budget quand il sortira et on le commentera, mais de longue durée, on a toujours eu comme idée que les dépenses ne devraient pas augmenter plus vite que l'inflation et la croissance de la population, et on va maintenir cette position-là.
Ça fait quatre ans de suite qu'il